Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires, on se fait plaisir, on va parler d'humains, on va parler d'entreprise, on va parler d'affaires, c'est bien sûr, parce que dans la jungle des affaires, il faut parler entreprise. On parle entrepreneur, on parle gestionnaire d'entreprise, on parle des gens aussi, des fois qui sont intrapreneurs, hein, sont dans une entreprise, et puis ont le goût de diriger ça. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on parle avec des humains, okay? Hein? C'est des humains, des êtres humains derrière l'entrepreneur, derrière le gestionnaire. Puis aujourd'hui, je suis bien entouré encore une fois. Hein? J'ai deux beaux humains avec moi.
Ben bonjour. Oui. Bonjour.
Chloé Beaulieu. Bonjour, Chloé.
Ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Je suis content que tu sois là.
Merci beaucoup de l'invitation. Ouais. Je suis très contente de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui.
Oui, c'est le fun. T'es bonne. T'es bonne parce que tu as la bosse des affaires. Tu es entrepreneur. Tu sais c'est quoi? Tu es dans la relève familiale. Bon, tu vis le quotidien d'un entrepreneur. Tu es direct dedans. On s'entend-tu?
Oui.
Puis en plus, tu as un côté humain aussi qui est le fun. Tu as un côté. Puis on a eu la belle preuve tout à l'heure avec notre invité Maxime Bonassère. Quelle belle personne.
Oui, mais oui. Puis c'est très intéressant aussi de discuter avec les gens, connaître des nouvelles entreprises, connaître des nouveaux parcours. Là, je suis contente aujourd'hui parce qu'on reçoit aussi quelqu'un qui a un parcours entrepreneurial, mais aussi qui a aussi un certain aspect de reprenariat aussi. Donc, j'ai hâte un petit peu de voir.
Vous allez vous comprendre, là, vous autres, là.
Ben, oui.
Hein? Parce que là, aujourd'hui, ben, savez-vous les? Moi, je refais le dictionnaire. Saviez-tu ça? Non, mais des fois, je suis le même. Moi, je fais le...
Des nouveaux mots.
Des nouveaux mots, qu'est-ce que tu veux? Christina Boilard,
bonjour.
Qui est avec nous. Bonjour, Christina.
Bonjour, bonjour.
Merci d'avoir fait la route.
Oui, ben, ça a bien été.
Oui. Oh, petite. Partie de Victo, hein?
Oui, ben moi, je suis de Drummondville.
Oui.
Qu'est-ce que tu faisais, là, Victo? Ben notre bureau est à Victoriaville.
Ah.
Exactement.
Bon, tu fais-tu la route à tous les jours?
Pas systématiquement tous les jours parce que je me déplace beaucoup.
Oui.
Mais je travaille une partie à Drummondville, une partie à Victoriaville.
Quand même.
On a beaucoup de clients aussi à Québec, donc c'est pas une route qui m'est étrangère. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus à Montréal.
Ouais.
Si je vais au Prorata.
Tu as plus de clients là-bas?
Parce... À Montréal, oui, beaucoup plus. Oui, beaucoup plus.
Prospecto? On va avoir l'occasion d'en parler en masse. Écoute, on est là pour ça. Mais avant, nous autres, on veut tout le temps savoir.
Mais oui, on aimerait ça savoir un petit peu plus sur ton parcours en tant que personne, ce qui t'a amené où tu es aujourd'hui avec Prospecto.
C'est qui cette fille-là, là?
Oui!
Étais-tu tannante à l'école?
Non, j'étais très sage.
Oui,
j'adorais l'école.
C'est vrai?
J'avais des bonnes notes.
Bon, enfin, ta barouette, c'est rare, ça, on dirait, hein? Les entrepreneurs, on dirait qu'ils nous disent tout le temps « Oh, moi, je m'aime pas sur l'école ».
C'est vrai qu'on a une certaine majorité, c'est vrai,
hein?
Que j'ai remarqué, j'ai pas de chiffres scientifiques par contre.
Prends 10 entrepreneurs dans ton réseau, là, puis demande-leur s'ils aimaient l'école.
Tu vas être
surpris de voir. Oui,
oui, je fais ton ami qui n'aimait pas l'école, mais qui aimait l'école aussi.
Ah, qui n'aimait pas l'école, oui, c'est ça. Si, la plupart du monde, oui, pas plus. Puis on essaie de dire à nos enfants d'aller à l'école, parce que tu sais, c'est bien sûr qu'aujourd'hui, on est conscient de ça.
Bien, ce que j'ai remarqué, c'est que plus les entrepreneurs sont dans des domaines technologiques ou à haute sphère sociale ou bref, on s'entend qu'il faut être soit ingénieur, faut concevoir des nouveaux produits. On est vraiment dans de la création pure.
Mm-hmm.
C'est plutôt commun que les gens ont fait de l'université, ont complété leurs études. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans le domaine manufacturier, en effet, c'est pas très commun. Les gens aiment ça, finir l'école plus tôt, aller faire du terrain.
Mm-hmm.
Bon, j'aimais beaucoup l'école. Mais il y a un moment donné que j'ai fini le parcours plus tôt aussi à l'université parce que je voulais être entrepreneur. Je trouvais que ça, tu sais, d'aller faire un doctorat, une maîtrise, ça ne m'attirait pas du tout.
Trop long.
Oui, hein? À un moment donné, on est impatient, on veut faire des choses.
On veut que ça aille vite.
Exactement.
Okay. La bosse des affaires. Vous autres, vous aviez ça tout petit, les deux, je présume. Là,
parce que, très tôt.
Hein, tu avais ça jeune.
Oui, c'était très surprenant comment c'était tôt.
À cause de tes parents?
Oui, mon père est entrepreneur, exactement. Là, c'est sûr que là, il est rendu plus vers la retraite, tranquillement. Ouais. Mais mon père, je l'ai vu entrepreneur. Donc, c'est sûr que cet univers-là, pour moi, est très naturel.
Oui.
Et
je mets là-dedans.
Exactement.
Ben
puis
oui.
Je vais dire quelque chose, je dis souvent, ça a l'air drôle, mais je dis, c'est comme une orientation sexuelle. C'est que je considère qu'être entrepreneur, c'est un peu plus fort que nous. Mmh. On a beau vouloir, ça vient nous chercher et on va vers ça. Fait que même si on veut se forcer à être un employé, à être dans le rang.
Ouais, dans le rang.
Ben, veux, veux pas, on est un peu. On se met à l'écart nous-mêmes. On va naturellement vers je veux faire mes propres choses, prendre mes initiatives. Fait que pour moi, c'était un peu comme ça. Une orientation sexuelle.
Ouais, ben,
de
je vois
dire,
le lien. Non, mais je vois le
c'est
parallèle.
C'est la première fois que j'entends ça et j'adore.
Ben oui, c'est un beau parallèle, certain.
Fait que c'était plus fort que moi. Voir mon père, ça m'a aidé parce que ça m'a décomplexé. Ben oui. Mais je pense que vers 4-5 ans, j'en parlais déjà.
Il travaillait dans quel domaine?
Lui, il a toujours été dans le domaine du web.
OK.
Donc, très, très proche du marketing. C'est sûr qu'il a fait des escales dans sa vie. Là. Il a été directeur général dans des entreprises aussi. Donc, il faisait des allers-retours. Des fois, il se lançait dans une entreprise, il revenait. C'est sûr
Bien,
que...
Toujours en lien avec les TI, avec l'information, avec l'informatique, avec le... Avec le quand tu dis le web, écoute...
Le marketing?
Je ne sais pas quel âge que ton père, là.
Mais il a vraiment été dans les débuts. Donc,
ah oui,
quand on commençait
là,
à avoir des sites web.
En 94, c'est Internet. Tu étais où, toi, en 94, Chloé, là?
C'est gentil.
Moi, je suis née en 94.
Ah, bon, là, c'est pour ça que tu me faisais une drôle de face. On ne sait pas où ce qu'on est dans l'année, où ce qu'on est.
Ben, honnêtement, je ne suis pas beaucoup plus vieille que toi. Donc, je ne peux pas juger.
Non, mais je veux dire, c'est une bonne question à poser peut-être à nos auditeurs. Si jamais il y a des gens qui se le tentent de m'envoyer un petit coucou cette semaine. Là. Internet, ben, il faudrait demander à ChatGPT, hein, la naissance d'Internet. Parce qu'Internet est né pour l'armée, hein, les forces militaires, en tout cas, ça... une longue histoire. Peut-être Martin serait ça, notre partner chez Bronco. Martin, c'est né quand, ça, l'informatique? Le web? Les années 80, hein? C'était une... Mais quand on dit l'utiliser, là, lui, il était dans la programmation? Est-ce qu'il était dans les secrets des dieux?
Il était vraiment dans les débuts.
Oui.
Donc, veux, veux pas, il faisait de la conception de sites web.
Ah,
il allait faire du AdWords, du SEO. Puis c'est pour ça que le domaine du marketing, pour moi, c'est un domaine qui est très familier, hein, familial, familier.
Oui.
Mais moi, je me suis dirigée beaucoup plus vers des domaines conventionnels. Donc vraiment, la vente directe, le fait d'être en discussion d'un être humain à un être humain, de vraiment argumenter, de négocier, pour moi, ça m'attirait beaucoup plus. Pas parce que je ne crois pas du tout au marketing web, au contraire. Je pense que c'est très utile. Mais il y a toujours un moment dans le processus que ça prend un humain.
Oui, mon grand-père disait « bédaine à bédaine ». Oui, bon, c'est du vrai réseautage. C'est du vrai réseautage de Bédène à Bédène.
Oh boy, j'ai jamais fait de réseautage Bédène à Bédène.
Non, mais moi, c'est quand j'étais jeune, tu sais, quand j'étais petit, j'entendais ça, je me disais, mon grand-père, il est fucky. Hein? Mais c'est ça pareil. Aujourd'hui, on comprend l'idée du Bédène à Bédène. Tu sais, comme tu dis, Christina, c'est d'être avec les gens. Hein?
De les rencontrer, de leur parler aujourd'hui.
Pas être à travers un écran.
Bien. Les Zoom, les Teams, les Google Meet, il n'y a aucun problème. C'est ce que je fais à longueur de journée. Le plus fort de mon temps, je le passe en rencontre ou par téléphone. Donc, c'est, je le comprends. Par contre, je trouve que c'est un outil de parler à un humain. Aujourd'hui, tout est automatique. C'est facile d'utiliser des outils comme ça. Puis c'est nécessaire. Mais je pense que comme les chats GPT, Bing, donc il y en a plein.
Où est-ce qu'on s'en va?
Je pense qu'on va avoir plus de place pour l'humain.
On est correct.
Tout simplement.
Oui.
Puis avant d'aller dans le plus corsé du sujet par rapport à ce que vous faites, tout ça, dis-moi, d'où est venue l'organisation, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? D'où ça a parti, tout ça?
Ben, peut-être que je peux expliquer en deux lignes ce qu'on fait.
Oui.
Des fois, ça peut être plus facile. Ben, en fait, le Prospecto, c'est de la prospection téléphonique.
Mm-hmm.
On en fait aussi du virtuel. Ben, c'est sûr qu'on est au fait de ces outils-là, mais essentiellement, c'est par téléphone.
Ah oui? Donc, ça existe encore?
Exactement, j'adore
ça.
Ça, c'est ce
que les gens te disent le plus souvent.
Ben, de moins en moins.
Oui.
Surtout avec la COVID, honnêtement, ça a renversé la vapeur. Les
je comprends.
Oui, et veux pas, les relations humaines, aujourd'hui, c'est encore nécessaire. Donc, la prospection téléphonique, c'est encore d'autant plus important. Parce que tout le monde ne peut pas avoir un représentant interne, tout le monde ne peut pas non plus dire j'aurai une ressource qui va faire que ça. Donc, il y a plein de facilités de le donner à un externe, à une firme de prospection. Donc, c'est ce qu'on fait à longueur de journée. On a une équipe qui est dédiée à ça, qui fait de la prospection pour nos clients. Et on ne se limite pas. Donc, il n'y a pas un domaine qu'on n'a pas fait. Dernièrement, je disais en plaisanterie à mon équipe qu'on n'avait jamais fait de l'aviation, on n'avait jamais fait de l'intelligence artificielle. Et c'est des clients qu'on a eus cette année. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a rien...
d'impossible.
Exactement. On a fait plus de 160 domaines différents. Donc, on peut à peu près tout vendre, mais ça dépend de comment on le fait. c'est ça. Ça demande une technique quand même. Là. C'est un métier de faire de la représentation. Mais on le fait par téléphone.
J'adore.
Puis d'où est venue l'idée?
Tout le monde qui nous écoute, ils vont avoir besoin de vous autres.
Ouais. D'où est venue l'idée?
Ouais.
Ben, en fait, je vais y aller un petit peu à l'envers. C'est que il faut savoir que j'ai le profil parfait du vendeur.
Ouais.
Ça a l'air drôle ce que je vais dire, ça a l'air prétentieux, mais tous les tests psychométriques que j'ai faits dans ma vie m'ont toujours montré 100% profil vendeur.
OK.
Donc,
c'est quoi un profil vendeur?
Un profil vendeur, c'est le côté relationnel. Donc, vouloir le bien de ton client, lui offrir une solution concrète pour ses besoins. Le fait aussi d'être capable de prendre des initiatives, d'avoir du leadership. Il faut que l'aspect entrepreneur, social soit très fort et il faut être créatif aussi.
Oui.
Pour, quand tu te retrouves face à une objection, d'être capable de trouver des solutions, des idées pour ne pas revivre deux fois la même situation, la même objection. Donc, moi, c'est né tout simplement parce que c'était naturel pour moi. J'ai fait du scoutisme très jeune.
Okay.
Donc, vers 5 ans, à peu près ça, j'allais cogner à des portes, vendre des calendriers, du pain. Puis pour ma famille, c'était complètement non-sens de dire, ben tu vas cogner à des portes, je comprends pas comment tu fais ça.
Ouais.
Déjà à cet âge-là. Et je pense que, veux pas, l'environnement familial et aide. Mon père étant entrepreneur. Ma
t'étais
mère,
pas gênée, hein? T'es...
J'étais pas gênée. Et ce qui est très drôle, c'est que ma mère, elle était secrétaire. Donc, quand on dit prospection téléphonique, on parle souvent à une secrétaire.
On parle bien.
Ah, on parle bien.
On s'exprime bien, on utilise les bons mots.
Et puis surtout, on pense souvent que la secrétaire, c'est notre ennemi. J'entends ça.
Alors... Non, c'est notre meilleure amie.
Exactement.
C'est elle qui... C'est de là que ça part.
Oui,
exactement.
Oui,
et je l'entends tellement souvent, je trouve ça triste, de la secrétaire va t'empêcher de parler au responsable. Bon, elle fait son travail. Et moi, d'autant plus, je le savais parce que ma mère est secrétaire. Donc, plus en vieillissant, je faisais des métiers de vente. J'allais sur le terrain, je faisais de la représentation. Je rentrais à la maison jusqu'à temps que je parte de la maison, bien sûr, mais j'ai commencé très tôt. Reste que quand j'en parlais à ma mère, elle me donnait des trucs. Mmh. Ah, ben moi, je suis secrétaire, j'aimerais pas ça me faire parler comme ça. Moi, je préférais me faire appeler comme ça. Donc, c'est sûr que...
Passe-moi ton boss. Hey.
Non, il y a des techniques quand même, là, mais...
Non, mais tu sais, je veux dire, si tu veux te rendre au patron, là, excuse, là, mais respecte la secrétaire.
Oui, elle sait beaucoup plus que ce qu'elle prétend.
Ben,
exactement.
Voyons donc.
C'est une force tranquille.
Oui, c'est une force tranquille, j'adore.
Donc, ben c'est ça. Ben moi, ça a été très naturel. Je fais du scoutisme, j'ai fait la vente très, très tôt. Donc, moi, à 17 ans, j'étais déjà en affaires. Là. J'avais déjà... je vendais des produits de cosmétiques à l'époque. Après ça, je me suis lancée à mon compte comme agente commerciale. C'est très peu connu au Canada, honnêtement.
Agente commerciale.
Qu'est-ce que ça fait, une agente commerciale?
Ben, en fait, en Europe, c'est très connu. C'est un peu comme un agent manufacturier.
Attends un petit peu, là. Woman, tu viens de me dire Europe. Est-ce que tu as un petit accent?
Non, je peux... Ben, en fait, non, j'ai été en Europe pour le travail, ça, c'est sûr. Parce que, bon, on a des relations quand même avec des clients en Europe. Mais moi, j'ai pas de lignée okay. française. Mais okay. c'est une bonne question.
Non, mais ça va plus... Je sais pas, je trouve qu'elle parle bien, tu sais.
Ah, ben merci.
Mais non, elle s'exprime très bien, par contre.
Oui, c'est ça. Oh, c'est sûr que quand Régent entend ça, lui... Régent Limoilou. Non, je t'agace.
Mais non, mais j'aurais pu, hein. Oui. Rien n'empêche, mais...
Déjà qu'on t'a appelé Katrina tantôt, là. Catherine.
Je suis un ouragan.
C'est, bon.
C'est bien.
Rien de moins.
Rien de moins, Katrina, non, c'est Christina.
Donc, ben c'est ça, mon cheminement a été plutôt naturel. Mais j'avoue que j'ai complètement omis la question.
D'où est venue l'idée, en fait?
OK. Ben, d'où est venue l'idée? C'est né de ça, tout simplement, à force de faire
ben,
des métiers
de vente.
Tu as
répondu. Tu as très, très bien répondu. Parce que c'est à peu près ça, dans le fond, ça part de loin, tu sais, c'est inné, hein?
Vraiment de loin, honnêtement.
Moi, je pense pas. Il y a des formations en vente, il y a des gens qui enseignent la vente, mais je pense pas que... Il y a un côté inné un peu dans la vente. Tu me corriges? Tu l'as ou tu l'as pas, non?
Non. On m'a déjà posé la question. Je donnais une formation il y a 2 semaines dans une université.
Ouais.
Et je la nommerai pas confidentialité, mm-hmm. mais... Et les gens que je formais me disaient, ben, qu'est-ce qui est le plus important, le inné ou l'appris pour un vendeur?
Ouais.
Et moi, je considère que c'est l'appris. Et ça a l'air drôle ce que je vais dire, mais en fait, il faut avoir des fonds, comment je pourrais dire ça, des compétences sociales. Il faut que la personne soit en relation d'aide. Donc, un travailleur social pourrait être un bon vendeur. Un psychologue peut être un bon vendeur. Donc, à partir du moment où tu as une base solide sociale, après ça, tu peux apprendre comment négocier, argumenter, faire valoir un point, faire une bonne prise de besoin. Mais il y a peu de différence entre les domaines sociaux et la vente.
Puis je me trompe ou la vente, c'est tout d'abord d'établir un lien avec la personne avec qui tu interagis. C'est d'établir un lien solide, une relation solide pour pouvoir par la suite peut-être évoluer dans une relation d'affaires, tout ça, mais j'ai pas du tout de formation en vente, mais est-ce que ça part de ça, tu sais, d'être capable d'établir une relation d'abord et avant tout?
Au moins un contact positif. C'est sûr que si les gens sont méfiants, ils se disent, bon, ben qu'est-ce que cette personne-là me veut? Ouais. C'est quoi son intention?
Ouais.
Ça va nuire au reste du processus. Par contre, est-ce qu'on a besoin vraiment d'une relation? C'est plus un minimum de confiance. Après ça, ben, c'est de faire valoir ses points. Tout le monde a des besoins. Tout le monde a des besoins, mais on confond souvent le besoin avec la réponse. Exemple, un vendeur de portes va dire, bon, ben moi, je vends des portes. Et quand il va rencontrer son client potentiel, il va dire, est-ce que tu as besoin d'une porte? La réponse, c'est soit oui ou non.
Oui.
Question fermée, exactement. Et la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est est-ce que tu as besoin de te déplacer d'une pièce à l'autre? Mais d'en limiter l'accès parfois. Est-ce que tu as besoin de pouvoir voir à l'extérieur sans avoir froid? Est-ce que pour toi, c'est nécessaire de pouvoir te mettre en sécurité? C'est plus ces aspects-là qui vont être importants que la porte. Après ça, pour le vendeur, ça va être évident de dire, ben, écoute, j'aurais une solution pour toi. As-tu déjà pensé acheter une porte? On va faire un trou dans le mur, on va mettre une porte et tu vas pouvoir te déplacer d'une pièce à l'autre. Barrer si jamais là, tu ne te sens pas en sécurité. Mettre une vitre sur la porte, comme ça on peut voir dehors sans avoir froid. C'est pour ça que le fameux vendre un frigidaire à un Esquimau,
oui.
Moi, je considère que tu peux vendre un frigidaire à un Esquimau sans être mal intentionné, sans manipuler, sans contrôler. Mm-hmm. Parce que j'avais expliqué cette métaphore-là à un moment donné à un client. J'ai dit, écoute, l'Esquimau, là, c'est pas vrai qu'il va laisser toute sa nourriture à l'extérieur. Il y a les ours, il y a toutes sortes d'animaux.
Il n'est pas si niaiseux que ça.
C'est pas si niaiseux ça, le concept de vendre un frigidaire à un Esquimau, parce que veux pas, le frigidaire permet de tempérer la nourriture. C'est pas vrai qu'à moins 20 degrés à l'extérieur, ton lait, tu vas être capable de le boire directement si tu vas le chercher. Donc, le frigidaire est très pertinent pour un Esquimau à partir du moment où il y a une maison, comme tout le monde, et il a besoin de conserver ses aliments à une température modérée. Donc, tu peux vendre un frigidaire à un Esquimau s'il y a besoin de ça.
Puis là, c'est là qu'on voit quand même que la vente en tant que là, c'est pas n'importe qui peut faire ça.
Moi, je considère que c'est un métier.
Okay.
C'est un métier. Ce que je trouve dommage, c'est quand je vois des entreprises qui prennent un étudiant, je dis pas que la personne n'est pas compétente, mais prennent un étudiant ou quelqu'un à temps partiel qui n'a pas nécessairement de formation ou d'expérience. Ils se disent, bien, cette personne-là va me rapporter le plus gros de mon chiffre d'affaires.
Tu vas aller à vendre, toi. Toi, tu t'en vas aux ventes, là.
Exactement. Et je l'ai vécu, hein. En début de carrière, j'ai été dans les télécommunications, dans le domaine du cellulaire. Et première journée de travail, on m'a donné un paquet de cartes d'affaires. Et on me dit, va dans le quartier industriel, va chercher des opportunités. Et si d'ici la fin de la journée, tu as encore ton paquet plein, t'es dehors. C'est à peu près ça l'idée.
Rien de moins.
Rien de moins. Donc,
hey, old school.
Hein? Old school, vraiment. J'ai vécu à peu près toutes les méthodes old school qu'on pouvait faire il y a plusieurs années. Et pour moi, ça a été une révélation, un élément déclencheur. Et ça a été un élément déclencheur de dire, moi, c'est pas comme ça que je vois la vente. C'est pas comme ça que je vois l'avenir de la vente non plus. Et c'est un métier. Donc, l'entreprise est née un peu de ça. À l'origine, je me suis lancée dans cet univers-là. Parce que je voulais faire les ventes comme moi, je considérais que ça devrait être fait. Laisser des traces de la sollicitation que tu fais, te faire une liste d'objections, un script, d'avoir une stratégie derrière la tête quand tu appelles des gens, pas juste appeler de façon aléatoire, de vraiment pouvoir choisir tes clients. C'est le seul marketing que tu peux choisir tes clients.
Mm-hmm.
Tu te fais une liste, tu dis lui je le veux, et on va l'appeler, on va aller te le chercher. Tandis que tout le reste, t'attends. T'attends que les gens viennent à toi.
C'est passif.
C'est passif. Mm. J'espère que ça va être un bon client qui va venir me chercher.
C'est ça. Tu laisses un peu ton... tu laisses la suite des choses au hasard, tu sais, ou en tout cas à la vie qui va décider pour toi.
T'espères que la vie va être bonne puis va te donner ce que tu cherches et ce que tu veux. Moi, je...
Les concessionnaires automobiles.
D'attendre, c'est ça.
À l'intérieur que la personne entre.
Mais c'est une autre technique. En fait,
c'est une autre façon de vendre.
Mais c'est sûr que c'est pas du tout la même chose.
Malgré que c'est plus ça, là. Là, c'est rendu sur le web, puis les gens, quand ils rentrent, ils ont déjà un rendez-vous. T'sais.
Oui, puis c'est correct. Comme je disais tout à l'heure, je ne discrédite pas du tout le marketing web. J'y crois beaucoup. Mais je pense que ça doit être un outil. Comme tout outil technologique, il y a une limite humaine.
Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Vraiment.
Oui, puis l'élément déclencheur qui a fait en sorte que cette expertise-là, ce besoin que tu as remarqué, puis cette expertise-là que tu as développée, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pu l'appliquer dans le cadre de l'organisation que t'as démarré, que t'as acheté, que t'as...
Comment c'est cette partie-là que je comprends. Oui. Je comprends, cette partie-là, elle est floue. Quand j'étais en début vingtaine, je travaillais dans les équipements de jury créatif. Je vendais des modules de parc.
OK.
Comme je dis, ça serait long de tout dire ce que j'ai fait entre mon 5 ans et mon 20 ans,
oui.
Mais j'ai fait beaucoup d'expériences. Et à ce moment-là, dans ma vingtaine, j'ai vécu un peu de harcèlement au travail par un collègue masculin. Et ça a été très loin, ça a été au nombre du travail, j'ai porté plainte, on allait aller en cours. Et je me suis dit à un moment donné, je peux pas croire que ça va être ça ma vie. Ça va être ça ma vie de toujours devoir me battre avec des collègues de travail qui vont vouloir me prendre des ventes, qui vont vouloir m'intimider. Et c'est un milieu majoritairement masculin, les ventes. Et je me dis, mais je peux pas croire qu'à chaque fois que je rentre au travail, je vais devoir protéger mes dossiers, m'inquiéter que quelqu'un me vole un client. C'est impensable. Tu te dis, c'est un stress immense. Déjà que de vendre, c'est, c'est énergivore.
Ben oui, ben oui.
Et à ce moment-là, ben, j'ai été pendant plusieurs mois à ne plus travailler parce que ça m'a vraiment...
Ça a eu un
impact. Vraiment, ça m'a beaucoup affecté. Et ça avait quand même été assez loin comme harcèlement. Donc, moi, ça m'avait impacté. Et j'ai profité, en fait, de cette période-là. Moi, j'avais demandé à mon ancienne patronne à l'époque, je dis, écoute, si t'es pour faire un choix, parce qu'il fallait à un moment donné choisir entre lui et moi, là. C'est oui, comme employeur, il faut que tu fasses un choix.
Oui.
J'ai dit, gars, moi, je tiens pas tant que ça. Donc, mets-moi sur le chômage et je vais faire un cours de lancement d'entreprise. Donc, comme ça, moi, parce que j'avais une révélation de, gars, je pense que je suis rendue là, j'ai mon élément déclencheur et j'ai fait un cours en lancement d'entreprise, j'ai monté mon concept et j'ai commencé à travailler comme agente commerciale. Donc, je vendais, en fait, le service de représentation à la pige. Une entreprise qui voulait avoir un représentant temporaire pour 2 mois, 3 mois, pouvait utiliser mes services. Donc, je l'ai fait pour beaucoup de domaines. Je prenais une pile de cartes.
Des représentants temporaires volants.
Exactement. C'est comme ça que j'ai commencé l'entreprise. Et je faisais des contrats de 2 mois, 3 mois. Je faisais le plus dur. En fait, je disais à mes clients... Il n'y a pas un de tes vendeurs qui veut aller sur la route, cogner aux portes à froid. Mm-hmm. C'est souvent la partie la plus difficile. Moi, j'aime ça. J'aime ça rencontrer du nouveau monde. Je trouve ça facile. Donc, donne-moi un contrat. Tu me payes avec un bloc d'heures. Je vais aller faire ça. Et en échange, je te donne toutes les cartes d'affaires, les contacts. Et tes représentants internes vont pouvoir prendre le relais. Fait que j'ai commencé comme ça. Et ça a très bien été parce que je ne veux pas, c'était quelque chose de nouveau.
Mais après, de pratique.
De pratique aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, je me sens un peu seule. Mais pas, j'étais toute seule. Et j'ai voulu avoir des employés avec moi, d'avoir une équipe. Et à l'époque, mon père me voyait aller, un entrepreneur lui aussi. Il dit, Christina, je veux t'aider à partir. Parce que j'étais encore dans la début vingtaine. Il dit, on va acheter une entreprise ensemble. On va défaire l'entreprise. Donc, on va juste garder la clientèle. On va la restructurer. Et journée 1, on va pouvoir facturer. J'ai dit, papa, c'est pas une mauvaise idée. De toute façon, c'était pas la première chose un peu wild que je faisais en affaires. Donc, je me disais, bon, écoute, il n'y a plus grand-chose qui me fait peur, allons-y.
Ah oui.
Et on a acheté une entreprise qu'à l'origine, je n'avais pas eu un fit particulier avec le propriétaire. Il n'y a pas eu un crush professionnel.
Non.
On s'entendait plus ou moins bien, mais j'aimais la structure de l'entreprise. Et lui, il la délaissait, donc on voyait que ça allait vers la fin. Mais il y avait une clientèle dedans qui attendait à être servie, mais de moins en moins, il y avait de service. Donc, on a acheté. Honnêtement, pour une bouchée de pain, parce que je veux dire, quand tu veux plus de ton entreprise, tu la cèdes.
Ça paraît. Oui, ça
paraît. Et pendant 6 mois, les premiers mois de l'entreprise, c'était incroyable. Je me faisais varloper parce que faut savoir que quand tu délaisses ta clientèle, tu n'en prends pas soin. Quand quelqu'un arrive demain matin, je suis le nouveau propriétaire, voici des nouveaux services, et ils t'attendent.
Oui. T'arrives de où, là?
T'arrives de où? Donc, on a dû absorber toute l'espèce de...
Contre-coup.
Frustration. Mm. J'avais des clients de cette entreprise-là qui ne voulaient me rencontrer que pour, finalement, juste pour déverser la frustration. Ça a duré à peu près 6 mois, puis après ça, on a tout restructuré, le côté relation client. On a refait l'offre de service. Et c'était une entreprise dans le marketing web, à la base. Et on a monté, là, avec l'expertise de mon père, parce que, veux pas, étant expert dans le marketing web, c'était naturel de vendre ça. Moi, je pouvais vendre à peu près tout, donc je me disais ça ou autre chose, et j'aime le marketing. Mais tranquillement, j'ai vu que la tendance de la prospection a pris de la place. Parce que moi, j'aimais faire de la sollicitation, c'était très naturel, et il y avait des besoins.
La prospection par téléphone seulement ou
par d'autres? Par téléphone, oui. C'est drôle, mais même encore aujourd'hui, si je prends Prospecto à l'heure d'aujourd'hui,
oui.
Une bonne partie de notre clientèle, c'est dans tout ce qui est univers du marketing. Parce qu'ils savent que ce soit web ou autre chose, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça prend de l'humain.
Mm-hmm.
Et on n'est pas une menace. Mm. Tu sais, ça serait une erreur de dire qu'on est une menace au AdWord, exemple. parce qu'on ne fait pas de AdWords.
Ça ne touche pas la même clientèle. La clientèle qui va être touchée par le... Je pense, je ne sais pas, peut-être que tu vas me corriger. Oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Le client que tu souhaites solliciter ou courtiser, il ne va pas nécessairement aller sur Google, il ne va pas nécessairement aller sur le site web sur lequel tu places. Tandis que si tu appelles, ben, tu as directement accès à ton client, comme tu disais tout à l'heure. Là.
Ben, j'aime beaucoup les métaphores. Hein. Vous allez voir, je fais beaucoup de métaphores. Je trouve que c'est plus facile d'assimiler l'information comme ça. C'est comme aller au bal. Tu vas danser, il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et là, les garçons voient les filles, ils se disent « Ah, oh, elle, là, est intéressante, j'aimerais l'inviter à danser. » Mais tout ce qu'il fait, c'est d'envoyer des petits clins d'œil, des petits signaux, mais il ne va jamais l'avoir.
Il y en a un autre qui y va, lui.
Exactement. Parce que lui...
Ça, c'est Reggie!
Fait que je considère que ça ressemble beaucoup à ça. Si vraiment tu veux ce client-là, si vraiment c'est ton profil parfait, pourquoi tu ne vas pas le voir?
Ben oui.
C'est la base. Les plus grandes entreprises, ceux qui sont plus solides, c'est comme ça qu'on a commencé. Ben oui. Ils ont pris leur pack-sac puis ils l'ont fait. Moi, je trouve que le téléphone... C'est une façon économique, parce qu'on s'entend que d'envoyer des gens sur la route, ça coûte cher. Mm-hmm. C'est une façon économique de le faire, mais de façon virtuelle, avec des rencontres vidéo, du téléphone. Pour moi, en tout cas, à un moment donné, c'est devenu naturel de l'offrir aux clients. Il y avait des besoins, parce qu'ils se rendaient compte que juste le AdWords, juste le marketing web, c'était pas suffisant. Il fallait faire quelque chose avec ces gens-là par la suite. Et là, on a offert la prospection. Ça devenait très naturel. J'ai tout packagé, le côté pitch, sollicitation, liste. Et ça a pris tellement d'ampleur qu'à un moment donné, ça l'a dépassé le marketing web, qui était l'origine de l'entreprise à l'époque. Mm-hmm. Et tranquillement, bon an, mal an, ben, ça l'a pris de plus en plus de place. J'ai dû racheter mon père parce qu'il est tombé malade. Mm-hmm. Veux pas, c'est la vie. Et je me suis associée avec trois associés masculins de Victoriaville, qui étaient dans la prospection aussi. Mm-hmm. Et ben, comme j'étais presque juste dans la sollicitation par la suite, l'entreprise avait complètement délaissé le web. Ben, c'était devenu naturel de s'affilier avec une autre entreprise qui faisait de la prospection aussi. Parce qu'on était sur un territoire similaire. Moi, j'avais des difficultés de recrutement. Eux avaient des difficultés de clients. Moi, j'avais trop de clients, mais pas assez de personnel pour le faire. Puis de leur côté, ben, il y avait trop de personnel, pas assez de clients. Un dans l'autre, on c'était avantageux.
Ben oui.
Et ce qui est drôle, c'est que cette entreprise-là, qui était à Victoriaville, c'était un ancien client à moi. Donc, il avait tellement aimé l'expérience de la prospection. Parce que je lui avais offert du service de prospection, qu'il a dit il y a un marché là-dedans et qu'il s'est lancé une entreprise de prospection.
Tiens donc.
Et je me rappelle le jour qu'il s'est lancé, il m'a appelé. Il dit « Christina, gars, je t'apprécie, fait que je vais te le dire. Je me lance une entreprise concurrente contre toi à Victoriaville. » Puis moi, j'étais à Drummondville. Et j'ai dit ben, « Bonne chance. On se revoit dans pas long. » Parce que je sais très bien que c'est pas un métier que tout le monde peut faire. Ça prend des compétences et c'est un métier.
Oui.
Donc, de savoir où trouver les listes, de savoir comment faire les scripts, d'avoir une équipe qui peut gérer la qualité des employés qui sont compétents, d'être capable aussi de corriger le tir rapidement s'il y a un changement dans l'industrie. Donc, tout ça, ça prend une équipe. Tu ne fais pas ça seul. Mm-hmm. Donc, je trouvais ça drôle quand je les ai vus partir parce que, bon, les trois ensemble, un des trois était un ancien client, les deux autres, c'était des partenaires de cette personne-là. En fait, c'est Jean-Pierre, mon associé actuel. Okay. Il en est resté un sur les trois.
Oui.
Donc, dans les dernières années... Bon, il y en a deux autres qui ont vu que la prospection, c'était... Pour eux, c'était
ils
plus...
Ils ont eu peur.
Non, ben, il y a des gens qui sont en affaires parce qu'ils veulent faire des sous. Mm. On va se le dire honnêtement. Il y a des gens qui sont en affaires parce qu'ils voient une opportunité, ils se disent « Parfait, ça va être rentable. Mm-hmm. » Donc, sur les quatre associés qu'on était, moi, je suis une vraie passionnée de la vente. Donc, moi, j'en mange. Et, ben, veux, veux pas, Jean-Pierre aussi. C'est un gars de marketing. Il a toujours été sur le terrain dans les ventes. Donc, les deux, on se comprenait. Mais j'avais le sentiment, je veux pas parler à leur place, mais j'avais le sentiment que c'était pas tant une passion que ça. Donc, à un moment donné, si c'est pas une passion, t'en manges pas, t'en respires pas, t'en vis pas, ben tu vas perdre ta motivation. Même si c'est très rentable, même si l'entreprise a une belle croissance, à un moment donné, c'est comme un mariage malheureux. Faut pas que tu te forces à faire quelque chose que tu veux pas. Là. À un moment donné, c'est on va faire autre chose dans la vie. Et c'est ça qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, on a décidé de grandir. Il y a du personnel, il y a des décisions aussi à prendre.
Vous avez racheté vos deux associés.
On a racheté les deux associés. Donc, on s'est retrouvés deux. Puis là, c'est parfait parce que justement, on a un bon fit. Déjà deux, il faut se le dire, hein, deux, souvent, ça prend un chef dans une business. Mm-hmm. Donc, de prendre des décisions à deux, des fois, il y a des conflits. Mm-hmm. Mais c'est correct parce qu'on est complémentaires. Puis à un moment donné... Non, pas tant.
Vous respectez.
On se respecte, on a nos départements.
Chacun vos forces.
On a chacun nos forces. Ah, oui. C'est sûr que des conversations, des fois...
n'importe quel couple, c'est pas juste un bar.
Ben, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Absolument.
Parce qu'on
fait des concessions, on écoute l'autre, on s'appuie un l'autre. Des fois, on s'estime, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas.
Mais tu sais, moi, je travaille dans une entreprise familiale. Hein. Mm-hmm. Donc, moi, je suis copropriétaire des entreprises avec ma mère et mon frère.
Oh là là!
Non, ça se passe super bien. Oui, parce que oui, des fois, on n'est pas d'accord. Mais on est capable de se parler.
Ouais.
Puis de se le dire.
Communication.
Puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. On vide la question dans le respect. Parce que tout se dit d'une certaine façon dans la vie.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Oui, parce qu'il y a des paroles, des fois, qui peuvent nuire à justement au respect hein, entre les partners.
Mais non, ça prend un
ça
respect.
Ça marche pas. Non, non. C'est...
Parce que c'est quand il n'y a plus de respect que là, ça dérape.
Oui.
Oui, ça, c'est vrai.
En bon québécois, là?
Mais dans tout, hein. Je veux dire, avec des relations, avec ses collègues de travail. Moi, je dis souvent, je suis un peu mal fait là-dessus, j'ai pas de besoin d'avoir un titre. Vraiment, ça ne m'attire pas du tout. Donc, des fois, il y a des clients qui apprennent un an après qu'ils travaillent avec nous que je suis copropriétaire de l'entreprise. Pour eux, ça les flabbergaste. Ils se disent,
oui.
Wow, pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Moi, c'est pas quelque chose que je recherche comme attention.
Tu cherches pas la lumière.
C'est exactement.
C'est quoi la réponse que tu donnes quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise?
Ben moi, je dis que je suis directrice des ventes, je fais la stratégie, je suis la stratège aussi. Donc, je gère trois filles. En fait, j'ai trois vendeuses qui travaillent avec moi, mm-hmm. qui vont faire des territoires différents. Parce qu'en fait, on fait de l'Europe, on fait les États-Unis, on fait le Canada, fait qu'on a des clients d'un peu partout, puis on prospecte aussi sur plusieurs territoires. Donc, veux pas, je gère le département des ventes, mais concrètement, je fais de la stratégie. Quand on rentre un nouveau client...
T'es une stratège.
Oui, oui, vraiment. Je veux dire, un client qui rentre...
T'es obligé de dire que t'es propriétaire.
Bien, c'est que je vois pas la plus-value à partir du moment...
c'est ça. Il est où le plus?
Oui, exactement.
Moi, les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans... C'est quoi ton rôle dans l'organisation?
Oui, la petite jeune là, qui
Moi,
arrive.
Je dis que je suis une pieuvre.
Oh, OK.
Je suis une pieuvre. J'ai plusieurs rôles, j'ai plusieurs tentacules. Mais oui, parce que...
Dis-tu que tu connais bien la patronne?
C'est
bon, ça.
Non, j'ai pas besoin de le dire.
Non.
J'ai pas besoin de le dire parce que aussitôt qu'on est les deux une à côté de l'autre, les gens nous regardent.
Ouais, tu t'en ressembles, vous ressemblez, Seigneur.
Les gens nous regardent et je dis oui, c'est ma mère. Ah, oui, puis même mon frère, on porte le même nom.
Mais imagine un employé qui se fait peut-être 6 mois qu'il est là puis qui n'a pas encore fait le lien. Hein?
Ah mon Dieu, mais quand je travaillais avec mon père à l'époque, qui était vraiment une autre incorporation, mais ça a été mes débuts.
Oui.
Ben, ça arrivait souvent que les gens me disaient « Ah, t'es sa fille. » Et honnêtement, je suis contente finalement d'avoir acheté mon père et maintenant, je suis vraiment dissociée. Mmh. Pas parce que je l'aime pas, au contraire. Puis j'ai aimé travailler avec lui. Mais,
Faut que tu fasses ta trace.
Peut-être que tu vas me comprendre, mais une femme en affaires va toujours passer en arrière de l'homme. Donc, ils vont partir du principe que l'expert, c'est l'homme, surtout s'il est plus vieux en plus.
Ouais.
Donc, j'avais des rencontres complètement incohérente et folle. Des fois, je rencontrais des clients, c'est mon expertise de la prospection. J'en ai fait des domaines. Je peux te monter ton département des ventes au complet, il n'y en a pas de problème. Et il regardait mon père.
Ouais.
Puis il posait des questions à mon père. Ouais. Mon père se retournait vers moi et disait, ben, je ne sais pas la réponse, toi, tu dirais quoi?
Ouais.
Puis là, je répondais.
Ouais.
Le client se retournait vers mon père.
Encore.
Il reposait la question. Il me dit, ça va être long. Ça va être très long.
Ouais, mais c'est un vieux client.
Ben non, c'est pas nécessairement des vieux
non,
clients.
Non, mais je veux dire, c'est un vieux client dans le sens, tu sais, il est pas à jour, là.
Mais je comprends un petit peu ce que tu as pu vivre. Moi, c'était différent parce que c'est ma mère qui a démarré l'entreprise. Au départ, qui était dans l'industrie du transport, alors qu'elle était monoparentale, qu'elle nous avait à temps plein.
Oh mon Dieu.
C'est toute une histoire,
donc tu sais, le parcours est quand même singulier. Donc, la relation qu'on a avec notre mère est singulière. On est tissé serré. Mais oui, des fois, c'est arrivé que certains membres de notre équipe, d'un certain âge, j'ai une histoire en tête, lui, il voulait pas me parler. Il parlait à Claudine.
Ouais.
Jusqu'à temps qu'il apprenne à me connaître.
Ouais.
Ouais.
Puis c'est ça, numéro un. Mais oui, je peux comprendre un petit peu ce que tu as pu vivre.
Claudine, c'est la bosse. Tu sais, non, mais.
C'est correct.
Il y en a qui sont restés. Ils stickent là-dessus. Puis c'est correct. C'est à nous autres de s'adapter. Hein?
Non, mais avec le temps, je pense que ça évolue. Ouais. Ça a très bien évolué de ce côté-là. Mais je comprends ce que tu peux dire.
Mais tu sais, veux pas que là, je suis associée avec Jean-Pierre, ça fait 4 ans. Mm-hmm. Que Prospecto, vraiment, l'incorporation existe parce que quand on a fusionné les deux entités, parce qu'on avait TM puis on avait AZ, mm-hmm. donc on les a fusionnés ensemble. On a créé notre incorporation parce qu'on ne voulait pas être dans une situation dominant-dominé. On ne voulait pas que les gens posent la question « qui a acheté qui? » Ouais. Parce que c'était vraiment... On se joint.
C'est un bon point, ça.
Ça, j'ai trouvé que c'était très, très bienveillant. Ça m'a déjà rassurée dès le début parce que, veux pas, moi, j'étais seule contre trois. Mm-hmm. Ça aurait été facile d'essayer de prendre avantage sur la situation. Mm-hmm. Donc, le fait qu'on a recommencé une incorporation...
Je pense qu'il y aurait eu de la misère quand même. Je te connais pas beaucoup, mais je pense que...
Il paraîtrait. Donc, mais je suis
contente. Un petit peu de rouge, hein, là-dedans?
Moi? Oui.
Du vert.
Rouge-vert.
Vert, jaune aussi.
Oui. Parce que nous, on parle des couleurs, parce que c'est là qu'on s'est connus.
Ah oui!
On s'est connus dans une formation de Nova.
OK, oui.
Les couleurs Nova.
Oui, oui.
Mais on voit, moi je vois beaucoup de rouge, là. Déterminée, elle passe à l'action, là. Tu sais,
tantôt, on parlait de relations, de vente, tout ça, de relations, du souci de la mm-hmm. personne, d'aider quelqu'un, tout ça, d'avoir une relation d'une certaine empathie aussi, tu sais, par rapport au processus, tout ce que vous faites, tout ça. Moi, c'est un petit peu là que je vois le vert, là.
Mais il paraîtrait que plus on vieillit, plus on a tendance à se tempérer.
Oui.
Dans ces sphères-là.
C'est pas fini.
C'est pas fini.
Tu vas voir, mais avec des cheveux gris, là, ça va être encore pire.
Mais
c'est bon.
Oui, c'est bon.
Ben oui, parce que là, on ne peut pas être à 400 000 à l'heure tout le temps. Seigneur, on va péter aux frettes.
Mais on évolue, hein? Ouais. Nos styles de personnalité évoluent avec le temps.
Oui, tu as raison.
Ils ont été longtemps à dire que ça restait toujours sensiblement pareil, mais maintenant, les recherches ont démontré qu'à travers le temps, tu me parlais que tu avais fait plusieurs tests psychométriques, tout ça, dans ton parcours. Probablement que tu ressortirais les tests psychométriques que tu as fait il y a 5-10 ans, tu en referais un aujourd'hui ou dans 5 ans, ça ne donnerait pas la même chose.
En fait, je suis devenue plus tempérée. Je suis beaucoup moins agressive. Parce que je veux pas, quand tu fais de la vente, tu as le feu aux fesses.
Ouais.
Là,
oui,
si je
peux dire ça. C'est action. C'est action, go-go. C'est où qu'on signe.
Exactement. Fait que j'ai toujours ça. Par contre, je suis beaucoup plus tempérée. Je suis moins agressive. Le côté un peu de testostérone, malgré que je suis une femme, ne veut pas, tu as beaucoup d'énergie quand tu es au ventre.
L'impulsivité.
Oui. L'impulsivité, exactement. Fait que veut pas, ça s'est tempéré avec le temps. Je me suis trouvé des trucs. Tout bêtement, je m'entraîne 3 fois semaine, j'essaie de faire attention à mon alimentation, ça l'aide. Parce que à un moment donné, c'est plus nécessaire d'être toujours à fond, très. Il faut que tu sois convaincant, il faut que tu aies de l'énergie. Mais je veux dire, si tu veux faire des relations de long terme en affaires, tu peux pas toujours être en mode défensif. Veux pas, c'est une relation.
Mm-hmm.
Donc, la majorité de nos clients...
Lâcher prise, à un moment donné, faut...
C'est ça. Puis moi, ce que je suis très fière, c'est que la majorité de nos clients dans la prospection, chez Prospecto, veux pas, ça fait... Il y en a qui sont là depuis le début. J'ai des clients qui sont là depuis des années. On a énormément de renouvellement. On a un taux de renouvellement hors norme selon l'industrie. Donc, jusqu'à date, je suis assez fière. T'sais, nos clients sont satisfaits, ça se passe bien, on est en croissance, nos employés sont heureux. T'sais, vraiment, on n'a pas à se plaindre. Mais on a toujours des défis, comme toute entreprise, que la croissance, bon, ben, veut pas, est-ce qu'on prend telle initiative ou pas? Est-ce qu'on met de l'investissement à tel endroit? Mais c'est un heureux problème, là. C'est pas quelque chose de négatif.
Puis comment, pourquoi les clients, ils viennent vous voir? Puis, on vient de parler de taux de rétention, oui, tout ça. Pourquoi ils viennent vous voir? Puis pourquoi ils restent?
Bien, en fait, c'est même pas grâce à nous. Non, c'est grâce à nous, mais c'est surtout parce qu'il faut un profil de client. Un client qui vient chez nous, qui est prêt, qui sait c'est quoi son marché, qui sait c'est quoi ses clients, qui a une idée d'où est-ce qu'il veut aller, nous, on peut les aider à se rendre à cet endroit-là. Mais un client qui sait pas où il s'en va...
Ouais. Il ne sait pas, lui, sa clientèle cible. T'sais.
Il ne sait pas, il est désorganisé, décousu, il est en découverte. Il n'y a pas de souci. On va découvrir avec lui son marché. On va faire des tests sur plusieurs territoires différents, des industries différentes, des scripts différents. Mais il faut accepter que si même le propriétaire de l'entreprise ne sait même pas qui est ses clients potentiels, c'est possible qu'on fasse un flop, là. C'est mm-hmm. possible que quand on fasse les appels, même les prospects se disent « Ah, ben pourquoi tu m'appelles pour ça? » Je suis pas ton bon target, je suis pas ton bon persona, t'as un bon profil d'entreprise. Donc, il y a des clients qui...
la bonne personne.
Exactement, il y a des profils, il y a des clients qui quittent tout simplement parce qu'ils sont pas rendus là. Ils sont pas prêts à faire vraiment un développement plus massif. Ils sont encore en découverte de ce qu'ils veulent pas. Puis il faut qu'ils se parlent à eux-mêmes aussi parce que nous, on engendre une croissance. Donc, si le client est pas prêt à absorber cette croissance-là,
ouais.
En personnel.
Ça donne quoi d'avoir des nouveaux clients si t'es pas capable de les servir?
Exactement. Donc, plus souvent qu'autrement, c'est ce qui crée le départ. C'est qu'à un moment donné, soit ils suffoquent parce que ça fait trop d'opportunités, ils échappent, ils desservent mal les prospects, ils ne closent pas. Mm-hmm. J'ai eu un cas, ça m'a fait halluciner. Mm-hmm. Le client avait eu 214 rendez-vous. Je pense que c'était en un mois et demi. Ou en tout cas, bref, je ne me rappelle plus le délai de temps. Mais ils avaient pas fait, en fait. Hein? Il nous avait dit, il était un peu fâché, c'était un nouveau directeur
lui,
qui avait
est-ce
remplacé.
Est-ce qu'il payait pour les ventes ou est-ce qu'il payait pour les rendez-vous?
Nous, c'est toujours des blocs d'heures. Donc, c'est vraiment un nombre d'heures par mois ou par semaine.
Qu'il y ait des rendez-vous ou pas, c'est...
Parce que c'est vraiment l'effort de guerre. C'est que s'il faut appeler des comptes majeurs, ça peut prendre 12 appels, rejoindre un responsable. Oui. Fait que pour nous, c'est plus simple au calcul de dire ben, des blocs d'heures. Et c'est plus simple. Parce que si on demanderait, exemple, un montant par lead, ce que j'aime pas, c'est que dans l'industrie, ça induit des mauvais comportements. Veux, veux pas, je te paye demain matin juste au lead. Qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas y rentrer dans la gorge, ton rendez-vous?
Tu vas y rentrer dans la gorge. Puis pas juste ça, c'est que ça se peut que ce soit pas tout à fait le bon prospect, mais tu vas le laisser passer parce que tu veux être rémunéré.
Oui, tu veux être payé.
Donc, ou même pire, ce que j'ai vu dans l'industrie, c'est de prendre un lead et le vendre à plusieurs clients différents.
Ouh!
Donc, de prendre un rendez-vous puis de faire, tu le vends à deux, trois clients en même temps. Donc, veux pas, ils
on
seront...
On va te vendre des pneus, un frigidaire puis une formation sur le réseautage.
Ouais. C'est... Fait que, il y a des dérapés, il y a eu des dérapés dans les dernières ben années. Oui. Et ça existait même avant, je veux dire, des années 60 et tout. Et, je veux dire, c'est pas nouveau. Par contre, moi, je n'adhérais pas à ça, de dire, on fait du développement pour cette entreprise-là, ce client-là. On lui doit une loyauté de dire, le développement qu'on fait sur ton projet, c'est pour toi, ton entreprise, ton produit, ton projet. Donc, on n'est pas en train de faire autre chose en parallèle, là. C'est pas vrai qu'on va réceptionner les appels d'un autre client pendant qu'on fait ton projet. C'est pas honnête. Donc, c'est des blocs d'heures qui sont assignés à toi. Et c'est pour ça que les agents, on prend pas 10 agents sur un projet. Souvent, on va en prendre deux, un principal, un secondaire. Puis en fonction de la performance, soit le secondaire va devenir plus principal ou le principal plus secondaire. On va y aller en fonction des résultats. Mais je veux dire, t'engages un représentant demain matin, tu t'attends à ce que le représentant, tout le long qu'il fasse son travail, le fasse pour toi,
oui,
ton entreprise.
Soit fidèle justement à son client.
Exactement. Fait que c'est sûr que les agents peuvent travailler sur plusieurs projets dans la même semaine, mais pas dans la même industrie, pas pour le même projet, pas pour le même produit. Il y a tellement de variétés sur le marché.
C'est clair.
Il y a des firmes de prospection, on n'est pas nombreux. Il faut l'avouer, non. En B2B, on n'est vraiment pas nombreux.
Non.
Des call centers, il y en a à peu près... Ma mémoire est bonne, 72 au Québec. On a beaucoup de bases de données, fait qu'à un moment donné, on connaît un peu les chiffres. Mais des call centers, il y en a beaucoup. Mais des firmes de prospection, on est très peu nombreux.
C'est quoi la différence entre les deux?
Ah, j'adore
la question. Ouais.
En fait, une firme de prospection va solliciter. C'est toujours des appels sortants pour solliciter des nouveaux clients. Une firme de prospection va souvent être au commercial, B2B. Et un call center va souvent être en appel entrant. Recevoir les appels, service client... exemple, les techniciens informatiques vont beaucoup travailler avec des call centers pour réceptionner les appels, des cliniques médicales privées. Donc, le côté réception d'appels, un peu secrétariat, ça existe depuis longtemps et il y a beaucoup, beaucoup d'offres.
Mm-hmm.
Par contre, tu n'es pas en sollicitation. Tu ne traques pas une personne ou un profil. Tu es vraiment en attente, un peu comme tous les autres types de marketing que je parlais tantôt, qui est passif. On attend que les gens nous appellent. C'est pas mauvais, mais c'est pas du tout ça
le but. La même, non, c'est ça. C'est pas la même vente.
C'est pas la même vente.
C'est pas le même travail. C'est pas le même métier.
Pas du tout. Puis c'est pour ça que parfois, on voit des CV de gens qui ont travaillé dans des call centers, puis on est toujours mitigé. Ça va vraiment dépendre des compétences de la personne puis ce qu'elle a développé dans son travail. Si tout ce qu'elle faisait, c'est réceptionner les appels, puis faire un service client de ouvrir l'ordinateur, fermer l'ordinateur.
C'est du service à la clientèle.
C'est ça.
C'est pas vraiment de la vente.
Exactement. Mmh. Donc, si ça était que ça, peu probable qu'on l'embauche. Mais si, par contre, en parallèle, cette personne-là a lancé son entreprise, était entrepreneur, vendait des produits sideline, on voit que ça complétait quelque part. Ce besoin-là de faire de la vente était plus fort qu'eux. C'était plus fort qu'eux, donc il fallait qu'il l'exprime à quelque part. Peut-être pas dans ce travail-là, mais ailleurs. Donc, si on le voit dans le CV, ben oui, là, ça devient intéressant de l'embaucher. Donc,
les gens qui ont fait du marketing à palier multiple, tu sais, le MLM, là,
oui,
c'est des bons vendeurs. C'est des gens, en tout cas, ils ont des belles formations à l'interne. Parce que, t'es-tu d'accord?
Bien, il y a plein de réseaux qui sont très bons pour commencer. Moi, je considère que quelqu'un qui...
C'est une belle école.
Exactement. Ouais. Quelqu'un qui pense se lancer en vente, vouloir faire un métier de vente, je conseille fortement de passer par des marketing de réseau pour commencer. Parce que t'as un parachute, donc t'as un support qui est toute une formation, puis les produits sont déjà testés.
C'est comme si t'étais franchisé.
C'est ça. Exactement.
Tu vois une communauté aussi qui vient avec.
Oui, exact.
Exactement. Puis, ça te permet de faire tes classes, d'avoir des bonnes pratiques. Et après ça, tu peux te décider d'aller par toi-même ou offrir tes propres produits ou services. Mais je trouve ça jamais mauvais d'expérimenter, je veux dire.
Mais l'assurance-vie.
Il m'a dit une affaire,
quand tu vends de l'assurance-vie, là, t'as tout vendu.
Ah oui?
Imagine, tu vas me faire un chèque en blanc dans lequel on va prendre l'argent tous les mois dans ton compte, mais t'as rien là, d'autre qu'un document dans les mains.
Ouais.
Tu achètes l'assurance pour que tes proches manquent de rien quand tu vas décéder. C'est ça de l'assurance-vie.
Mais oui.
Tu sais, quand t'achètes une voiture, un gilet, une maison, peu importe.
T'as quelque chose de concret dans tes mains.
Ben oui, tu le vois. Tu dis, hey, ça m'a coûté ça, gars, c'est beau.
Ouais, je comprends.
Là, je te vends de l'assurance-vie.
C'est particulier, c'est vrai.
À tous les mois, je vais aller piger dans ton compte. À tous les mois du reste de ta vie, ou en tout cas, bref, dépendamment du produit que tu as acheté. Juste parce que, mec, tu meurs, il y a quelqu'un autour de toi qui manquera de rien.
Mais
c'est capoté, là.
Tu sais, souvent, on parle d'industrie. Il y a des méthodes de vente selon l'industrie. Bien, ça, c'est un bon point. Le fait de penser à l'autre, de vouloir le faire pour l'autre, c'est aussi bon pour la sécurité informatique, exemple. On va souvent utiliser les mêmes méthodes de l'assurance pour nos clients qui sont dans la sécurité informatique. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas prendre, exemple, une protection en sécurité informatique ou une personne qui va être une veille au niveau informatique.
Oui, c'est comme la caméra là, qui te surveille ta maison, mais la place, c'est ton ordinateur.
C'est ça, ou justement les systèmes d'alarme. Pourquoi ils vont prendre ça? C'est toujours pour les autres, pour protéger les gens autour d'eux. Mm-hmm. Et c'est un argument qui fonctionne très, très bien. Fait que l'erreur, quand tu vends ce genre de produit-là, c'est de dire, veux-tu un système d'alarme? Il veut pas ça. Il veut que son entourage soit en sécurité.
Veux-tu protéger ta famille?
Exactement. C'est l'argument qui va être utilisé.
Je serais bon vendeur, moi. Hein?
Ben, tu sais, chaque industrie a un peu ses particularités. Il y a des tendances. Mais une fois qu'on comprend que c'est des grandes lignes, tu peux utiliser une méthode de travail qui se fait dans les cosmétiques, dans une manufacture. Parce que tu comprends la logique.
Mm.
Et c'est toutes les stratégies qu'on fait sont basées sur des principes qui fonctionnent, qui ont porté fruit dans d'autres industries.
Il y a une certaine base, peu importe l'industrie. Hein?
C'est ça, il y a une base, il y a une logique, il y a un squelette à la base.
Il y a un squelette, j'adore ça.
Je suis curieuse, en tant qu'employeur, comment vous vous assurez que les membres de votre équipe soient bien outillés pour faire face justement à chaque situation, à chaque mise en situation, à chaque objection qu'ils peuvent avoir, étant donné qu'ils travaillent eux-mêmes par le biais dans énormément d'industries, ils doivent avoir quand même un gros bassin de connaissances pour chaque personne pour pouvoir travailler. Comment vous vous assurez qu'ils ont toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir avoir des bons résultats pour vos clients?
C'est une très bonne question et c'est pour ça en fait qu'on fait souvent un mur entre les agents et les clients. Ça, pour certains clients, ça peut devenir très difficile à comprendre, mais les agents vont synthétiser l'information. Donc, le client peut nous parler pendant 2-3 heures de son produit, de son service, de son entreprise, être hyper passionné, mais nous, on va prendre des notes de ça. Mm-hmm. Et on va monter un script, on va monter une stratégie avec ce qu'il nous donne. Mais c'est pas vrai qu'on va tout montrer à l'agent. C'est impossible. De toute façon, il va faire une indigestion, il y a trop de contenu.
Il y a trop de stock. C'est too much.
Il faut pas oublier que nous, les gens qui font des appels, là, c'est tous des vendeurs en puissance. Si tu leur donnes l'opportunité de faire la vente à ta place, ils vont le faire. Et la majorité des clients, ce qu'ils nous demandent...
Ils vont ramasser ça comme ça aussi.
Ils vont tout ramasser. Donc, c'est pour ça que les clients, on essaie de leur expliquer que, bon, la personne qui va faire les appels, elle ne peut pas savoir tous les détails de ton... exemple, de ton produit ou ton service, parce qu'au téléphone, elle va être tentée de le dire.
Oui.
Et de négocier, d'argumenter. Elle va être tentée de faire la rencontre à ta place au téléphone. C'est sûr que la majorité des clients veulent des rendez-vous.
Mm-hmm.
C'est ça qu'ils nous demandent, en fait.
Mm, ben oui.
Ils veulent qu'on fixe des rendez-vous pour leurs représentants ou pour eux, pour qu'ils puissent aller faire leur vente eux-mêmes et la démo et tout. Mais il ne faut pas que ce soit nous qui le fassions. Si nous, on le fait au téléphone, il n'y aura pas de rencontre. Fait que c'est pour ça qu'on synthétise l'information, on donne l'essentiel à l'agent et progressivement, parce qu'on a des clients qu'on fait des ventes complètes, là. On remplace carrément leur département. Ah oui, il y en a qu'on remplace carrément le département des ventes. On monte le PowerPoint de démonstration, les rencontres Zoom, c'est nos agents qui le font. On monte la liste d'objections. Fait qu'on fait les trois phases. On fait la phase de sollicitation, la phase de démo et la phase de suivi de soumission. Et on peut aller jusque-là avec nos clients. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt.
On est loin juste du téléphone, là, qui a une liste à côté puis qui fait Python. Là.
Je trouve ça intéressant parce que moi, je pensais que c'était juste la phase prospection.
Tout à fait.
Donc, ça peut aller très, très loin. Puis c'est sûr que les clients, il faut qu'ils soient
prêts. Ça va prendre un podcast, là. Ben non, mais Christina, il va falloir que tu expliques tout ça. Parce qu'il y a plein de monde là, qui, comme Chloé, pense pareil. Là.
Mais c'est un type de service, c'est une offre de service qui est rare, pas connue.
Oui, c'est ça.
C'est pas une expertise
qui gagne à être connue.
Oui, exactement. Hein, exactement. Puis qui mérite aussi valorisation.
Hey, Seigneur Maison.
Oui, parce que j'ai une cliente dernièrement, elle m'a tellement fait rire. Elle m'a dit, Christina, je regarde l'effort parce que son conjoint a une entreprise avec des vendeurs. Mmh. Puis elle disait, je regarde tout l'effort que ça nécessite de les encadrer, les superviser, leur donner du matériel.
Ça n'a pas de bon sens.
Ça, c'est vraiment une personne temps plein qui doit gérer deux ressources.
Ben, ça prend un directeur des ventes. Quand tu as une équipe de vente, une équipe, Réjean, ça te prend un directeur des ventes ou une directrice, là, mais ça te prend un superviseur.
Ça prend une structure, c'est ça.
C'est un gros salaire. Pour aiguiller, ouais.
Exactement. Fait que c'est pour ça que ça vaut la peine de le donner en externe si l'entreprise est structurée dans ce sens-là.
Faut que tu appelles Christina chez Prospecto. Mais non, mais c'est ça!
Mais c'est sûr que je prêchais pour ma paroisse, c'est sûr. Hein?
Est-ce que tu aimes le nom?
De quoi? Podcast dans la jungle des affaires animé par Réjean Gauthier?
Non, la jungle.
La
Est-ce
jungle?
Que la vente, c'est un peu une jungle?
C'est drôle, hein? Mais plus les années avancent, plus je trouve que c'est... oui, c'est un champ de bataille. Parce que je veux pas, faut que tu te défendes, faut que tu argumentes.
Faut dire jungle.
Jungle. Oui, c'est une jungle.
Oui.
C'est une jungle.
À chaque fois qu'on prononce le mot jungle, je suis payé.
OK, c'est bon. Je vais le dire jungle.
Non, je t'agace. Non, mais c'est vrai qu'est-ce que tu dis. Je veux pas t'interrompre. Continue.
Ben, en fait, moi, je compare souvent ça à un champ de bataille dans lequel tu dois avoir une stratégie, tu dois avoir des fantassins qui savent exactement ce qu'ils font, mais tu peux pas te faire tirer dans le dos pendant que tu tires sur l'ennemi. Vraiment, tu ne peux pas toujours te surveiller de partout. Mmh. Et malheureusement, beaucoup de vendeurs sont toujours surveillés par leur supérieur immédiat.
Ouais.
Ils doivent se défendre devant le client. Ils ne sont jamais protégés par personne. Ils sont toujours un peu le méchant de l'histoire. Ouais. Et c'est un très beau métier d'être vendeur. Donc, c'est pour ça qu'il faut encadrer, il faut protéger les gens qui font de la vente et leur donner des bons outils. Moi, les prospecteurs, s'il y a un défaut, il y a quelque chose qu'ils ne font pas correct, on s'assit, on trouve la solution. C'est sûr qu'on a l'habitude aussi, les objections, il n'y a plus grand-chose qui nous impressionne. Mais c'est un service. Mm-hmm. Donc, ton massothérapeute demain matin, tout d'un coup, il fait une pratique que tu aimes moins. Il y a un mouvement que tu sens que ça a été moins bénéfique que dans le dos, mettons. Ben, c'est un petit correctif, c'est un petit détail qui a sûrement fait la différence que cette fois-là, ça a été un peu moins bon. Donc, dans l'ensemble, c'est le même principe en prospection.
Okay.
C'est un service, donc ça se peut qu'il y ait eu juste une mauvaise habitude. L'habitude de dire « t'sais » ou de laisser un silence qui est trop long.
Genre, dans le fond.
Dans le fond. Ou de juste changer un mot, que là, les gens aiment moins ce mot-là, et qu'ils réagissent moins bien.
Oui. Il y a des mots qui font peur.
Oui.
Pour l'avoir vécu avec le monde de l'automobile.
Mm-hmm.
J'ai travaillé beaucoup avec on dit les représentants, comment on dit, des conseillers. Il ne faut pas dire des vendeurs de chars. Ils ne veulent pas.
Moi, je considère que vendeur, c'est un très beau mot. J'ai pas de gêne du tout.
Ben moi, je le dis souvent. C'est OK, t'es un conseiller à voiture. Bon, OK, c'est écrit sur ta carte d'affaires, conseiller. Bon. Si tu vends pas d'auto cette année, ce mois-ci, est-ce que t'es payé? Non. Ben, t'es un vendeur de chars, donc tu vends des chars. T'es vendeur. Ah oui, c'est pas grave. On les aime pareil. Mais c'est vrai que dans ce domaine, dans cette industrie-là, les mots sont importants. Je dis pas qu'ailleurs, ce le sont moins. Mais je veux dire, dans l'automobile... Aïe, aïe, les mots sont importants.
Les mots en affaires, ça a une puissance méconnue.
Mm.
Parce que c'est tout est une question de perception. Si tu n'es pas en mesure de donner ton message de façon à ce que la personne perçoive
de la bonne manière
ce que tu veux lui transmettre comme information, ça ne fonctionne pas.
Mm. Mais tu sais, quand on parlait que c'est un métier et que vraiment, il y a des enseignements que tu ne peux pas donner, si ce n'est pas ton core business, tu n'y penseras pas. Nous, dans les formations qu'on donne à nos agents, c'est exemplifier de parler plus grave. Bonjour, je me présente, je m'appelle Christina. Versus, ben bonjour, je m'appelle Christina. Et misère. Il n'y a personne qui va vouloir te répondre au téléphone.
Non, déjà, j'ai les oreilles qui saignent.
ça a l'air drôle, mais on l'enseigne, ça.
Oui.
Parler plus avec le ventre, plus grave. après ça, il y a des formulations de phrases, de laisser des silences aussi. Parfois, il y a des techniques de sollicitation que c'est...
Ça, c'est plate. Ils appellent ça le pitch, là, quand ils pitchent, là. Ah ouais, let's... Tabouille, laisse-moi parler, c'est moi le client, j'ai-tu des besoins? Hein?
Exactement. Est-ce qu'il y a des questions dans le script? Est-ce qu'on me laisse le temps de respirer, d'interagir? Puis c'est comme une pièce de théâtre.
Agressif, tu sais, des fois, il y a des vendeurs, ils ont un ton agressif, tu sais.
Mais honnêtement, il y a des techniques aussi. Il faut dire qu'il y a des industries qui le demandent, parfois, d'avoir une approche plus directe. C'est-à-dire, je veux travailler avec vous, quand est-ce que vous êtes disponible, je vous prends par le fond de culotte, venez avec moi.
Ça marche-tu, ça?
Ça marche, sauf que c'est pas dans n'importe quel domaine. Il y a des domaines qui, c'est comme ça. Donc, on aurait beau vouloir le faire de façon très douce, ça passera pas, les gens vont pas être réactifs. Mais d'autres, c'est de parler très doucement. Mmh. Bonjour, Monsieur Dufour, ça va bien? Écoutez, je vous appelle parce que hey, là, t'es stické sur ton combiné, là. Puis t'essaies de comprendre ce que la personne te dit parce que tu dis où je vais manquer un mot. Mais c'est une technique. Okay. C'est une technique quand tu veux parler à un patron, à un directeur général, il est super occupé, tu sens qu'il court partout. Hé, bonjour, Monsieur Dufour. Et, écoute, il dit à tout le monde d'arrêter, je veux entendre, je comprends rien de ce que la personne me dit. Il va aller s'isoler dans une autre pièce.
Ça fait. C'est un tellement.
Là, t'as ton attention. Oui, c'est vrai.
Son attention.
Moi, c'est ça que ma blonde a soir. Faudrait que je te parle.
Mais ça crée une proximité, la personne doit s'approcher.
C'est vrai, je suis totalement d'accord.
Oui, c'est ça, ça crée un tu vas capter l'attention.
Et le pourquoi, en début d'émission, tu nous disais que tu trouvais qu'elle s'exprimait bien.
Ben oui.
Ah, ben oui, je parle tous les jours. Non. Je fais juste parler à longueur de journée. J'ai pas de mérite.
T'es chanceuse, imagine si tu perdais la parole, là, il y a juste ton chum qui serait content.
Ah, il parle plus que moi.
Oui, oh, c'est
ah,
vrai.
Oui.
Moi, c'est une vieille joke que je fais souvent, tu sais, quand j'ai perdu la voix pendant 6 mois.
Oh.
Oui. Puis, ben, j'ai dit, rien que ma blonde qui était contente.
Ah oui.
Mais j'aurais le goût, je vois le temps circuler, c'est oui. Se sauver même. Je l'ai mis au ralenti. Je sais pas pourquoi, il va vite pareil. Le temps. je vais t'envoyer une vidéo hors des ondes que okay. Tu vas rire. En tout cas, j'espère pour toi. De Robert De Niro, un vieil acteur oui. Italien. Qui, à un moment donné, est vendeur d'auto.
OK.
Je me suis servi de cette vidéo-là dans mes conférences, mes formations en vente. Je vais te l'envoyer, tu vas rire.
OK.
j'aurais le goût de laisser le mot de la fin.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Où est-ce qu'on peut te rejoindre?
Ah, oh, je donne mes coordonnées, d'accord.
Ah ouais, let's go, on a le droit, on a le droit.
Ben
on
en
fait comme si c'était une pub.
Ben en fait, on est très facile à trouver, c'est Prospecto, P-R-O-S-P-E-C-T-O, .ca.
Oui.
Et en fait, on a toujours quelqu'un qui réceptionne les appels, là, donc juste demander Émilie à la réception. Puis,
tout le monde a besoin de prospecter, peu importe oui. L'entreprise. Je veux dire, à quelque part, tu ne peux pas me dire « Ah, moi, j'ai assez de clients, j'en veux plus. Ben, » il y en a, là, mais je veux dire, c'est rare. puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans la prochaine année, là?
Ben, des beaux projets. Honnêtement, comme je disais tout à l'heure, ça va bien. On a une très belle croissance. C'est plus d'avoir des beaux projets que les clients. On peut aller un peu plus loin dans le processus, justement, prendre le département des ventes au complet.
De A à Z,
De A à Z, exactement.
Vous devenez des directeurs des ventes, des équipes de vente volantes. C'est ça oui. Que j'aime, moi. T'es pas obligé. Tu sais, comme entrepreneur, tu parles un matin, tu réunis ton équipe, les associés, puis tu dis, bon, là, ça nous prend le département des ventes. On est rendu là, tu sais.
Oui.
Là, c'est le boss qui fait du PR, puis la... le trésorier qui est rendu au 5 à 7. Puis tu sais, tu comprends?
C'est une job. C'est une job à part entière.
C'est une job, là. Oui. C'est un métier. Tu l'as dit tantôt, c'est un métier. Fait oui. Que t'appelles Christina. Qu'est-ce que t'en penses?
Yes, je suis complètement d'accord.
Merci beaucoup, Chloé.
Ça m'a fait grand plaisir.
Encore une fois, d'être ma co-animatrice d'un jour.
Oui.
C'est le fun. Hey, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais en tout cas, ça a l'air qu'on va avoir du plaisir.
Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.